qu'on nous présente aujourd'hui. Puis la réalité, Luc, c'est qu'on pourrait discuter de la valeur patrimoniale du pont. Moi, je suis de ceux qui pensent, en tant que résident de Québec depuis 48 ans, qu'il a une valeur patrimoniale. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. C'est pas tout le monde qui voit ça comme le Golden Gate à San Francisco. Et c'est surtout pas un pont qui est très, très fonctionnel à long terme. Tu sais, c'est
le remplacement du pont, ça serait une hypothèse plus appréciée.
Ben, dans une partie, pour une partie de la population, oui, c'est ce que je sens. Par contre, ça n'a pas été étudié par le fédéral. Pour le fédéral, ça faisait pas partie de la réflexion de déconstruire le pont de Québec, alors que plusieurs disent, ben, il faudrait peut-être tourner la page là-dessus. Oui, ça a été une belle structure, mais on a un problème de fluidité à Québec entre les deux rives. Mm-hmm. Il faudrait peut-être tourner la page là-dessus puis arriver avec un pont plus moderne. Donc là, on va mettre des milliards sur ce vieux pont-là. Et il va falloir mettre des milliards éventuellement aussi sur un troisième pont à Québec, là, Luc. Ça va venir tôt ou tard.
Le quatrième pont, Jérôme. Le quatrième, parce que là, il y a celui de l'île d'Orléans qui est annoncé.
Ah, ben, il y a celui de l'île, oui. Si tu veux inclure le pont de l'île là-dedans. On va en avoir des ponts presque autant qu'à Montréal. C'est quoi, 27 à Montréal, des ponts et des liens que vous avez?
J'ai pas compté. Mais, bon, il se trouve quand même que c'est une île, hein. Tu nous donneras ça.
Oui, mais nous autres, on est 1 million séparés par un fleuve aussi, là, Québec et Lévis.
Oui, mais c'est parce que cette idée-là de prétendre qu'il y a une ville de chaque bord. Lévis, c'est pas une ville, là.
Luc, sérieusement, je t'invite. Veux-tu, je t'invite à venir souper à Lévis dans les prochaines semaines, ça tente. Tu vas voir les tours poussées, là.
Ben, j'étais à Québec l'été passé, puis là, je regardais le centre-ville de Lévis. Je voyais bien une église puis un parc à chiens, mais je voyais rien d'autre.
Écoute, t'as manqué 3 ou 4 gratte-ciels qui sont en train de se construire, je te dirais.
Je vais y retourner. Jérôme, va venir vous voir.
Viens faire un tour.
OK, salut, merci beaucoup.
Salut, Luc.
Bye. On s'en va à la pause.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
On sait ce qui est arrivé dans la crise sanitaire. Il y a des gens qui croient plus à rien puis qui pensent qu'on est toujours manipulé puis que les gros méchants Big Brother est arrivé tout ça. Je dirais qu'il y a des preuves plus concrètes qui nous laissent croire qu'il y a peut-être des extraterrestres. Quand on regarde les documentaires, les lieux mythiques qui ont été bâtis, quand tu regardes du haut des airs, t'as l'impression que c'est une piste d'atterrissage. Alors ce genre de truc-là, moi, ça m'impressionne. Puis la pyramide de Khéops, bien plus que 3 taches dans le ciel de Rimouski.
Lorsque les États-Unis font quelque chose et puis ils se font encenser pour ça, le Canada n'est jamais bien loin derrière.
On a peur quand on vient chercher directement dans nos poches.
Exactement.
Tu sais, quand ça vient des taxes, un paiement de stationnement, quand on paye notre facture de permis de conduire, ben dans tout ça, il y a des frais cachés qui vont dans la santé, dans l'éducation, dans un département quelconque, mais on les voit pas, fait que c'est correct. C'est comme moi que les Américains ne sont pas reconnus pour leur QI élevé. En tout cas,
c'est ma cousine de la Floride.
Lundi au vendredi dès midi.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille.
OK, lui, c'est un maringouin.
Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
Votre vision est dérangeante, vous ne voyez plus aussi bien qu'avant, vous êtes déçu de vos lentilles intraoculaires, vous n'aimez pas porter de lunettes. Au Centre ophtalmologique de l'Estuaire, plusieurs solutions visuelles sont disponibles à divers problèmes oculaires. Prenez votre premier rendez-vous dès maintenant pour évaluer la santé de vos yeux. Notre équipe vous présentera les options qui s'appliquent à vous. Notre parcours cataracte a reçu la note de 98,3% à la visite d'Agrément Canada. Appelez au Centre ophtalmologique de l'Estuaire au 418-723-25.
Le club de golf du Vic propose une nouvelle tarification dynamique et des prix à la baisse. Notamment un rabais de près de 300$ sur un abonnement de saison pour les actionnaires qui font un retour. Réputé comme l'un des plus beaux au Québec, le parcours Bicois répond aux attentes les plus exigeantes. Voiturettes, boutiques, restauration et bars sont au nombre des services offerts. Le Vic, une passion qui s'exprime dans un décor enchanteur depuis 92 ans. Plus d'infos au www.clubdegolfvic.com.
Comment protéger vos clés? En attachant à votre trousseau une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouve pourra nous appeler ou les déposer dans une boîte aux lettres. Nous vous les retournerons gratuitement. Ce service est plus important que jamais car les clés électroniques coûtent très cher à remplacer. Le service des plaques porte-clés des amputés de guerre, c'est gratuit et efficace. Commandez les vôtres à amputedeguerre.ca et améliorez la vie des personnes amputées.
Dégâts d'eau ou de feu. Pour tout nettoyer,
Calinex,
pour tout décontaminer,
on peut chiffier.
Calinex,
on est partout, au Québec.
CFIX FM 93. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. Tout ce qui fait partie de l'actualité. À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve.
Sans réserve.
Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Marie-Ève Tremblay.
Sous l'océan, tout nous aime bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Luc, je sais, t'aimes tellement la musique, je me dis maintenant, je vais introduire toutes mes chroniques avec une musique thème.
Oui, pourquoi pas?
Non, je ferai pas ça. Parce que j'ai pas autant lié, mais là, il y a un lien avec cette chanson tirée d'un de mes films préférés enfant, là, La Petite Sirène. Mm. C'est Mercredi Métier. De quoi je vais parler, tu penses, en lien avec...
De quelque chose sous l'océan. Sous l'océan, les maillots de bain. Non, les aquariums,
les maillots de bain. Oui, c'est aujourd'hui passion, poisson et aquarium. Il y a un auditeur qui m'a écrit la semaine dernière et c'est un métier auquel je n'aurais pas pensé dans le contexte de cette série.
C'est
ici.
Un quoi, un aquariumiste?
Je vais y aller plus simple que ça. Installateur d'aquarium récifal. Il s'appelle Olivier Leclerc. Il a la boutique Jardin de mer à Carignan. Et justement, c'est quoi un aquarium récifal? Parce que là, il m'écrit, il dit, moi, je suis spécialiste. C'est quoi ce récif? On s'imagine les coraux. On laisse expliquer.
C'est un aquarium dans lequel il va y avoir des invertébrés, des roches vivantes, des poissons d'eau salée, bien sûr, comparativement à l'aquarium d'eau douce. C'est pas les mêmes êtres vivants. J'aime bien croire, et mes clients croient aussi, après l'avoir vu, que chaque poisson d'eau salée a une personnalité. Et c'est sûr qu'il va y avoir Nemo, Doris. Le gros boom de l'aquariophilie récifale s'est fait quand Nemo est sorti. Ouais, c'est vraiment ça qui a déclenché la démocratisation des aquariums récifales. Puis à ce moment-là, beaucoup des poissons clowns étaient collectés en mer, ce qui est pratiquement plus le cas. Maintenant, tous les poissons clowns sont faits en captivité. C'est sûr aussi que la même chose au niveau des organismes vivants que je mets dans l'aquarium, la plupart vont avoir été cultivés en aquarium pour éviter justement la surcollection de tous les coraux dans la nature, si on veut. Ça, c'est un petit côté plus consciencieux de ma part.
C'est sûr que moi, j'ai une certaine sensibilité à la préservation de nos océans, aux mers. Je fais de la plongée sous-marine, j'en ai parlé souvent à ce micro-ci, puis c'est vraiment très, très important. Même quand on fait de la plongée, on nous dit on ne touche à rien. On ne touche pas aux coraux, on ne touche pas aux poissons. Alors, de ce côté-là, tu sais, on peut se dire ah oui, ça peut être sauvage un petit peu, l'idée d'avoir des coraux, des poissons tropicaux, on les ramasse dans la mer, mais non, c'est vraiment pas, ça se fait. Mais l'approche de Olivier Leclerc, c'est vraiment, il va avec des cultures, donc il commande ces pousses de coraux qui sont développées en culture supervisée. C'est des espèces de champs de coraux. Il y en a beaucoup, beaucoup en Asie. Ça vient de quand même assez loin. Et là, lui, quand il reçoit ça, il les stocke dans des bassins dans son garage.
Ah oui?
Oui. Il commande aussi des poissons, même chose. Et lui, il fait tout, de la création de l'aquarium à la vie qu'il met à l'intérieur. Donc, c'est lui qui fournit. Puis ensuite, il fait aussi l'entretien. Pourquoi il a commencé à faire ça? On se demande, il n'y a pas de cours, j'ai l'impression, à ce sujet-là. Ben, c'est il y a 20 ans, il a vu un coupon rabais dans un journal qui est en lien avec un lieu comme ça, là, qui vend toutes sortes de poissons, d'aquarium. Puis ça a été le début de tout pour lui. Il a commencé tout petit, il y avait un intérêt. Et le propriétaire de la boutique est devenu un peu son mentor. Et puis, quand le propriétaire a pris sa retraite, il s'est dit, ben là, ça ne doit pas disparaître. Moi, je veux continuer. Alors, il a décidé de poursuivre. Mais, et là, je ne l'ai pas appris tout de suite en lui parlant quand j'ai rencontré. C'est seulement par la suite qu'il me l'a dit, parce que j'ai dit, qu'est-ce que vous faisiez avant et tout ça? Ben, il dit, moi, je ne fais pas temps plein, là. Parce que ça coûte cher, ça rapporte pas tant que ça. Donc, il est aussi promoteur. Ah, immobilier.
Okay.
Mais ça prend énormément de temps, tout ce qu'il fait en lien avec ça. C'est un métier, comme je l'ai dit, de passion. Et c'est ça. Je l'ai rencontré hier, Luc. Je suis allée me promener dans le quartier Westmount à Montréal. Il a été engagé par un particulier dont je suis entrée par le sous-sol. C'était une espèce de grande salle de jeu là, assez immense. Une grosse baraque là, dans Westmount. Et là, il est en ce moment en train d'installer le plus gros aquarium pour particulier, et puis ça fait quand même 20 ans, 540 gallons. La grosseur de l'aquarium, combien ça pèse, tu penses, un coup que tout est installé?
Mon Dieu, des tonnes.
6 000 livres.
Ah,
Wow.
6000 livres. Alors, il a dû même ouvrir le plancher. Il peut même pas installer sur le plancher de Bois-France. Okay, ça doit être sur la dalle. Oui. Alors, c'est toute une installation, toute une organisation. Et je lui ai demandé combien ça pouvait coûter cet aquarium-là, qui est immense.
Avec les poissons puis tout, là.
Ouais. Non. On va y aller, mettons, sans les poissons. As-tu une idée de combien ça peut coûter? 120 000 $.
Oh, tabourette.
120 000 $. Puis là,
mais c'est plus cher qu'une piscine creusée.
C'est une bonne mise de fonds pour une maison, concerne. Mais bon, avec les poissons, les coraux, ça peut monter très, très vite parce que des poissons qui sont à plusieurs milliers de dollars. Il m'a parlé notamment de un qui est très, très rare, qui coûte 35 000 $ en argent américain. Mais ça dépend, c'est ça, de la rareté. Les coraux, si on les veut aussi à maturité, parce que ça, c'est un être vivant, ça grossit. T'sais, si tu l'as tout petit, ça coûte moins cher. Si toi, tu veux déjà un gros aquarium là déjà complet, ben là, ça peut être plusieurs milliers de dollars aussi pour un morceau de corail. Mais là, plus l'aquarium est gros, plus ça en prend. Donc, probablement que pour le projet que j'ai visité hier, qui va voir le jour, qui n'est pas terminé, ça va être aux alentours de 200 000 $.
Oh!
Oui, alors...
C'est pour ça que ça
va se monter. Ben là, celle-ci, oui. Puis, il m'a invité là parce que c'est un projet très impressionnant. Comme je l'ai dit, c'est le plus gros qu'il réalise jusqu'à maintenant pour un particulier. Mais je lui ai demandé justement, est-ce que c'est accessible à tous? Là, j'ai l'impression que c'est pour les gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Il dit qu'il y en a de toutes les grosseurs, mais qu'il faut être prêt à perdre de l'argent. Pourquoi ça? On écoute Olivier Leclerc.
Chose qu'il fallait faire pour savoir si tu étais prête à une eau salée, il faut prendre 100 $, le mettre au feu, puis si ça te fait rien, tu es prête à être dans l'eau salée. Parce que malheureusement, il y a souvent des pertes qui peuvent être occasionnées par des maladies, des bactéries et tout ça, fait que ça fait en sorte qu'il faut que tu sois prêt malheureusement à avoir des pertes financières par rapport à certains ajouts que tu vas faire à ton aquarium. Mais Nemo, ça peut être un 30 gallons, ça peut être suffisant pour avoir un couple de Nemo.
Ça coûte combien un 30 gallons?
Ça peut coûter 500 $ comme ça peut coûter 2000 pour le même 30 gallons. Ça dépend de l'équipement, les lumières, la sorte de skimmer, l'écumeur. Juste lui vaut 8500 $. Mais c'est pour 800 gallons. Fait que, tu sais, mais pour un aquarium de 30 gallons, on va parler de 100 $, 150 $.
Donc, c'est accessible.
C'est accessible. Si vous avez un enfant qui souhaite avoir un petit Nemo. Ouais.
Il n'y en a pas moins qu'avant, des aquariums?
Ben lui, ce qu'il dit, c'est à la sortie du film, ça fait quand même plusieurs années, là, justement, Nemo avec les nommés là, Doris, les poissons, les enfants se sont mis à vouloir avoir ces poissons-là, puis c'est très populaire. À ce que j'ai compris, là, c'est assez recherché. Par contre, puis ça demande beaucoup d'investissement, de patience. Puis il le disait, tu peux perdre aussi de l'argent. Parce que c'est pas, je lui ai demandé, est-ce que c'est un peu comme une piscine à l'eau salée? Est-ce que c'est la même chose? Pantoute, là. Je le dis comme ça, pantoute. Ils cultivent le sable pour développer des bactéries à même le sable. Il y a un traitement spécial de l'eau par osmose inversée pour enlever absolument tout, le calcaire et tout ça, pour rendre l'eau propre, pour ensuite ajouter le sel. Et là, développer cette espèce d'écosystème de bactéries. Ils installent même des quarantaines à même les aquariums. Donc là, tu sais, je vous ai parlé de l'immense. Il y a une espèce de bac qui est en retrait. Dès qu'il y a un nouveau poisson qui arrive, tu le mets dans ce petit bac-là à part, tu regardes si jamais il y a des maladies ou quoi que ce soit, il ne va pas contaminer tout le reste parce que tu peux perdre au complet le contenu de ton aquarium si tu rentres un poisson là-dedans qui a une maladie ou qui est contaminé. Donc, c'est vraiment très structuré et ce n'est pas sans danger, Luc.
Ah, pourquoi?
Oui, il nous l'explique.
L'eau salée, c'est un milieu de bactéries, puis ça, tu peux pogner des maladies. Regarde ici, j'ai pogné des maladies. Ça s'appelle la Mycobacterium marinum. C'est parti d'une écharpe dans le milieu du doigt. 99% sûr, j'ai mis les mains dans mon aquarium. La bactérie s'est introduite, puis ça l'a fait les différents petits points que tu vois là. Si tu vois, mon doigt est plus épais. Puis ça, c'est vraiment des bosses infectées. Fait que là, j'ai deux prélèvements qui ont été faits pour être analysés, pour confirmer que c'est ça, pour être sûr d'avoir les bons antibiotiques. J'en ai pour 3 mois d'antibiotiques. Là. Fait que ça, c'est des dangers. C'est aussi un métier dangereux. La Mycobacterium marinum. Mais tu sais, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est pas la première fois que je me coupe un doigt puis je me mets dans l'aquarium. Tu sais, c'est arrivé, là. Ça a commencé à fin février.
Il me semble que c'est un peu moins tentant à raconter comme ça.
Non, mais écoute, il dit justement, c'est un accident, c'est la première fois où ça arrive. Moi, je te l'ai dit, là, je fais de la plongée sous-marine, je me suis déjà coupée dans le fond de l'eau. C'est drôle parce que la lumière n'est pas la même. Je voyais quelque chose de vert qui sortait de mon doigt. Je pensais que c'était une algue. Je me disais, voyons, va-t'en, algue. Puis en sortant de l'eau, j'ai réalisé que c'était du sang. Je veux dire, j'ai pas eu aucune bactérie. Puis j'ai
mis la main dans un aquarium.
Je sais
avec
pas.
Avec ses doigts saucisses.
C'est possible.
Peut-être que c'est ça qui est arrivé. Il y avait des mains ordinaires avant.
Puis c'est vrai, mais écoute, ses bras sont tatoués de poissons. Tu vois vraiment que c'est toute sa vie. Puis les poissons qu'il y a sur ses bras, là, il me les a.